Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter et merci de nous être fidèles tous les samedis. Au sommaire jusqu'à 13h, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, ce sera dans un instant. Et puis le débat de la semaine, la politique à l'épreuve de la défiance, enjeu d'actualité, ravivé après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen et l'inquiétude qui persiste dans la population malgré les propos rassurants du gouvernement. D'un côté la promesse de transparence des autorités et de l'autre le doute de nombreux citoyens et même au-delà du doute, des rumeurs, des fake news qui circulent sur les réseaux. Beaucoup réclament la vérité comme si le gouvernement ne disait pas toute la vérité. Alors où s'arrête l'interrogation légitime de la parole d'autorité dans une démocratie? Où commence le complotisme? Pour en débattre, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec l'un des meilleurs spécialistes des croyances collectives. Il est professeur à l'université Paris Diderot, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Le sociologue Gérald Bronner sera l'invité du grand face-à-face.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va plonger directement dans le vif d'une actualité très chargée cette semaine. Et cette semaine, il s'est notamment passé ça.
On parlait d'Éric Zemmour. Il travaille dans des organes de presse, et pas n'importe lesquels. Et si l'on pense qu'il tient des propos qui dépassent toutes les limites et qui franchissent toutes les digues, il y a bien un moment où il faut prendre des responsabilités.
C'était lundi dernier sur France Inter. François Hollande, l'ancien président, dénonçait la banalisation du pire, pour reprendre ses mots, et donc le cas du polémiste Éric Zemmour et de ses propos largement relayés par les médias. De quoi cette histoire est-elle le symptôme, Natacha ?
De plusieurs choses. Parce que si on prend le cas, par exemple, de François Hollande, qui est le président qui, dans ses dialogues avec Davet et l'homme, retranscrit dans un livre, expliquait que le pays était au bord de la partition, mais qu'il ne le disait pas ouvertement aux citoyens, on se dit qu'il est un peu gênant de voir que des politiques qui ont pratiqué cette incapacité à dire les choses devant les citoyens, puisse ensuite intervenir de cette façon. Parce que je pense qu'il faut rentrer dans le fond de du sujet des propos d'Éric Zemmour, qui sont en effet, qui franchissent des limites dont certaines peut-être tombent sous le coup de la loi, dans la mesure où il y a véritablement...
Ah, peut-être, il a été condamné deux fois.
Non, mais je parlais de son discours là,
devant
dimanche,
la convention de la droite.
Voilà, et là je pense qu'il y a clairement un appel à la guerre civile dans son discours qui est absolument effarant. Mais simplement, la question que nous devons nous poser, c'est quel est le statut d'un discours comme celui-là? Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce qu'en font les médias? Après, on peut aller sur le fond, en effet, sa détestation des Lumières, de la République, c'est-à-dire qu'il est véritablement dans un discours réactionnaire, enfin par-delà le réactionnaire qui a même glacé son auditoire d'extrême droite, hein, ce qui est quand même, c'est une performance. Mais la question, c'est est-ce que les médias doivent diffuser ça? Regardez par exemple Le Monde, qui s'insurge que ce discours ait été diffusé sur LCI, mais qui retranscrit in extenso le discours de Marion Maréchal, assorti de quelques commentaires pour dire « Regardez, nous analysons tel mot ou tel autre qui prouve qu'elle est d'extrême droite ». Oui, enfin, il y a trois commentaires, hein, et qui cassent pas trois pattes à un canard non plus. Mais ils retranscrivent ce discours. En revanche, ils attaquent LCI qui a déployé ce discours. Alors, je suis pas sûre qu'LCI aurait dû le diffuser. Simplement, ce que je me dis, c'est que dans un sens, au moins, les choses sont claires. Tout le monde sait exactement quelle est la teneur du discours d'Éric Zemmour, qui jusqu'à présent était disséminé dans des livres qui parlaient d'histoire, etc. Là, c'est un condensé, et il faut avouer que c'est brutal.
Gilles.
Alors, un mot sur Zemmour, un mot sur le traitement par les médias. Éric Zemmour représente quelque chose. François Hollande disait un peu le contraire l'autre matin sur France Inter. Il représente quelque chose. Certes, il n'a pas de légitimité politique, il n'est pas élu. Certes, il n'a pas de légitimité universitaire, il n'a pas de diplôme universitaire. Mais il a une influence. Il est lu beaucoup, il est écouté beaucoup aussi. Donc il représente quelque chose. Il représente quoi? Il représente aujourd'hui un idéologue d'extrême droite et parfois même, Natacha a raison, au-delà de l'extrême droite. Quand on écoute son discours, qui d'une certaine manière, est une forme de best-of ou de worst-of, si le mot existait, de tout ce que Zemmour dit depuis de nombreuses années. C'est une incitation à la haine. Je ne sais pas si, d'un point de vue juridique, c'est une incitation à la haine. La justice le dira. Mais dans les faits, c'est une incitation à la haine. Quand on reprend, il annonce une... Les mots ne sont pas choisis au hasard, ne sont jamais choisis au hasard chez Zemmour. Il annonce une extermination des Blancs. Il assimile l'islam et le nazisme. Il appelle à se battre contre les musulmans. Ce sont ses propres mots dans son discours. Bon, donc, ça, c'est le cas Zemmour. Comment les médias doivent-ils le traiter ? Moi qui ne suis pas journaliste. Peut-être une opinion un peu dissidente et peut-être pas très loin d'ailleurs de ce que disait Natacha. Je pense que le principal problème n'est pas la diffusion de son discours par LCI.
Non.
En tout cas, ça se discute. Je suis pour que les chaînes d'information continuent. Je trouve que c'est un de leurs apports, diffuse in extenso des discours politiques, quitte à ce qu'il y ait après un décryptage et un débat de ces discours. On est évidemment, on ne doit pas être dupe du fait que ils diffusent Éric Zemmour parce qu'ils savent ce qu'Éric Zemmour va dire et que ça va faire, ou qu'ils espèrent que ça va faire de l'audimat. Je pense que le principal problème n'est donc pas la diffusion de ce discours, parce que d'une certaine manière, ça révèle Zemmour tel qu'il est, et ce discours était un discours qui avait beaucoup d'aspects pathétiques. Il était assez médiocre d'un point de vue oratoire et très inquiétant sur le fond. Je pense que le principal problème, c'est la nature et l'ampleur de l'exposition d'Éric Zemmour dans les autres médias et le statut qu'il a, c'est-à-dire d'intervenir non pas comme un invité, mais d'être pour les journaux, pour les radios, pour de nombreuses télévisions, leurs représentants comme chroniqueurs, éditeurs, animateurs.
Est-ce qu'on peut débattre avec lui ? Est-ce qu'il faut débattre avec lui, Natacha ?
Moi, je reste persuadée qu'il faut absolument débattre avec toute personne qui émet des idées qui sont suivies. C'est-à-dire que je pense qu'il est absolument essentiel d'abord de bien définir quelle est la pensée d'Éric Zemmour, c'est-à-dire justement de ne pas laisser croire qu'il s'agit simplement d'être, comme certains de ses soutiens l'ont dit, lanceur d'alerte sur le danger islamiste. Mais c'est pas du tout ça. C'est tout simplement quelqu'un qui nous explique que l'émancipation individuelle pensée par les Lumières et par le libéralisme philosophique est absolument insupportable et qu'une société d'ordre, où on est enfermé dans une religion et dans une ethnie et dans une culture vue comme une entité figée est formidable. C'est ça sa pensée, c'est ça qu'il a exprimé dans ce discours. Et donc je pense qu'il faut aller débusquer ça, il faut débattre argument contre argument pour que on ne puisse pas faire croire qu'il serait justement un martyr, injustement mis de côté par une supposée bien-pensance. Donc je crois qu'il faut pas être dupe. Et là où je rejoins Gilles sur un point très important, c'est la question du statut de la parole qui est essentiel. C'est-à-dire, d'abord, nous sommes dans un système médiatique qui, de plus en plus, a tendance à mélanger les genres, les rôles, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien, d'ailleurs on voit bien les mots, les gens ne savent plus comment désigner tel chroniqueur, polémiste. Alors, est-ce qu'il est... Il n'intervient pas en tant qu'homme politique dans cette convention. En revanche, il n'est pas journaliste, clairement. Donc, il est quoi ? Il est idéologue. Mais du coup, quel est son statut dans les médias auxquels il participe et dont il est salarié ? C'est tout ça qui se pose. Mais ça se pose de façon aiguë avec Éric Zemmour. C'est vrai dans beaucoup d'autres cas. Il y a toujours eu des hommes politiques qui faisaient du journalisme en France. Et c'est normal. En revanche, là, au sein d'une société qui est de plus en plus une société du spectacle et du spectacle politique, on voit un problème de statut de la parole qui me semble devoir être pensé.
On peut débattre avec lui ?
La France est un pays dans lequel la liberté d'expression est une garantie fondamentale et qui est très protégée. Elle n'est pas absolue, on n'est pas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même conception de la liberté d'expression, mais elle a pour seule limite l'incitation à la haine. Et elle est même de plus en plus protégée par une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui considère qu'il faut qu'il y ait une exhortation à la haine. Donc, elle est très protégée et elle est très effective. Elle est même beaucoup plus effective qu'il y a 40 ans, du temps où Jacques Chirac, dont on parlait la semaine dernière, était Premier ministre. Le nombre de médias et les réseaux sociaux font que toutes les expressions peuvent se donner à voir sur les médias.
Pas toutes. Il a été condamné, Alain Soral a été condamné.
Non, mais dans les limites de la loi. La question est que Éric Zemmour a été condamné. Qu'est-ce qu'on fait de cette condamnation. Est-ce qu'on considère que ce n'est rien et qu'on peut débattre avec lui comme si de rien n'était? Et moi, je ne considère pas que le droit, que la liberté d'expression soit un droit illimité à l'exposition. Et quand je vois des candidats à la présidence des Républicains signer des pétitions pour s'insurger contre les atteintes à la liberté d'expression d'Éric Zemmour, personne à peu près dans ce pays n'a eu une telle exposition dans les médias depuis 10 ans.
Encore un mot, Natacha, et on change de sujet.
Je pense que, en effet, il faut se réfléchir à cette question-là, la question de ce qui tombe sous le coup de la loi, sachant que, certes, Éric Zemmour a eu une exposition, mais il a eu une exposition qui était toujours assortie, évidemment, de cette idée, et peut-être un peu trop de cette idée qu'il était le diable absolu, et ça l'a servi. C'est-à-dire qu'on en a fait un gourou, on en a fait celui qui était le seul à dire des choses, et c'est ce que croit son public. Et je pense que, de ce point de vue-là, ça a servi sa radicalisation et ça a servi son aura. Donc je ne suis pas sûre que c'était la bonne manière de faire. Je pense que, en revanche, il faut bien distinguer entre, en effet, ce qui tombe sous le coup de la loi et ensuite ce dont on peut débattre. Et après, il faut distinguer aussi entre ceux avec qui on peut débattre et ceux qui... avec qui un débat n'est pas possible. Et je pense à quelqu'un comme Alain Soral, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il ment. Parce que c'est un menteur pathologique. Zemmour dit ce qu'il pense et ne ment pas sur ce qu'il prétend, sur les faits, sur celui qu'il a en face de lui. En revanche, il tord les faits historiques de façon ahurissante et totalement dingue. Vous voyez, c'est pas exactement le même mode de fonctionnement.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les députés, et aussi tous ceux qui nous écoutent de loin, grâce aux nouvelles technologies, je suis très émue de revenir devant vous et très heureuse parce que dans cette salle, j'ai beaucoup de souvenirs et je vois beaucoup de visages que j'apprécie.
Cette semaine se poursuivaient les auditions des futurs commissaires européens devant les eurodéputés. Mercredi, c'était au tour de la française Sylvie Goulard qu'on vient d'entendre. Elle a demandé plus de 10 fois au cours de son audition, plus de 10 fois aux eurodéputés de lui accorder leur confiance, en vain, puisqu'à l'issue de son audition, elle n'a pas obtenu les voix nécessaires pour être nommée commissaire au marché intérieur, en charge de la politique industrielle, de la défense et de l'espace. Alors l'histoire n'est pas terminée, rien ne dit qu'elle n'aura pas finalement la confiance des eurodéputés. Mais conclusion provisoire, Natacha, vous vous dites elle est belle la démocratie européenne et c'est quelque chose qu'on devrait voir lorsqu'un gouvernement est formé en France, des auditions aussi vives et un vote aussi important des députés.
Ça, on peut considérer en effet que c'est un des éléments qui fonctionne dans l'Union européenne. Et heureusement, il y a des choses qui sont intéressantes. Simplement, c'est extrêmement inquiétant sur le choix de Sylvie Goulard. C'est-à-dire que c'est un affaiblissement de se retrouver dans une situation comme ça qui était absolument prévisible.
Affaiblissement ?
Oui, c'est-à-dire que dans le dispositif qu'a voulu mettre en place Emmanuel Macron, on ne comprend pas pourquoi ce choix-là est intervenu, qui en effet est un choix qui pose problème. Il y a différents éléments qui expliquent pourquoi elle n'a pas été immédiatement acceptée par les députés européens. Et le fait, comme elle le dit, qu'elle ait parlé en 4 langues ne suffit pas à en faire une bonne candidate pour ce poste de commissaire.
Alors pour que tout soit clair, il faut rappeler que Sylvie Goulard a été interrogée par les eurodéputés sur les enquêtes dont elle fait l'objet dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Modem. Et elle a dû aussi répondre sur son travail de consultante pour un think tank américain, l'Institut que je pense nous avons tous découvert, à part vous Gilles, l'Institut Berggruen, puisqu'entre 2013 et 2015, elle était eurodéputée et cet institut l'a rémunérée plus de 10 000 euros par mois, ce qu'elle avait d'ailleurs déclaré à l'époque.
Absolument.
Vous applaudissez à l'exercice démocratique qui s'est joué au sein de l'hémicycle.
Oui, ça, on voit que le Parlement européen est une institution qui est plus exigeante et moins docile que l'Assemblée nationale et que la plupart des assemblées européennes. Ce qui s'est passé était prévisible. Nous l'avions évoqué ici le lendemain même de sa nomination. Le rejet a été extrêmement net parce que tous les groupes, à l'exception des libéraux, ont voté contre Sylvie Goulard. Quelle lecture on peut en donner ? Parce qu'il y a deux lectures différentes, peut-être complémentaires. Il y a une lecture politique qui est le jeu politique du Parlement européen. Une forme d'équilibre de la terreur, puisque les mêmes commissions ont rejeté la nomination d'un commissaire hongrois du Parti populaire européen, ont rejeté la nomination d'une commissaire roumaine du Parti socialiste européen, et donc il fallait aussi qu'il y ait un libéral. C'était aussi, dans la même lecture politique, une réponse du Parlement européen au président français, considérant que le président français avait beaucoup maltraité le Parlement européen. Mais l'autre lecture, c'est ce que Natacha a évoqué, ce sont les faiblesses personnelles de la candidate française. Elle a énormément de qualités, de compétences, et elle en a montré une partie dans son audition. Mais il y a à la fois une faiblesse de cohérence. Comment peut-on, dans le cadre de la même affaire, sortir du gouvernement français et accepter de rentrer à la Commission?
Puisqu'il faut rappeler qu'elle a été l'éphémère ministre de la Défense du premier gouvernement d'Édouard Philippe
même s'il faut le dire aussi, elle n'est pas mise en examen. Et une question de transparence. Qu'est-ce qu'elle a fait? En contrepartie de quoi ces 10 000 euros mensuels ont-ils été attribués? Quand bien même ont-ils été déclarés? Au final, je ne sais pas si elle va être confirmée, sans doute, mais elle risque...
Sans doute,
mais la contrepartie est que son portefeuille risque d'être redéfini ou réduit, et en ce sens, c'est un affaiblissement, et c'est un affaiblissement pour la France.
Si vous êtes d'accord, on passe au sujet qui suit.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Le prédateur devient la proie devient le prédateur. Donc c'est moi la méchante, c'est lui le gentil. Passer pour les vilaines sorcières, ça commence à bien faire.
Une décision de justice passée largement inaperçue, ou peu commentée en tout cas, c'était mercredi dernier. Sandra Müller, qu'on vient d'entendre, c'est elle qui avait lancé le hashtag « Balance ton porc ». Sandra Müller était condamnée pour avoir diffamé l'homme qu'elle accusait de harcèlement. Elle devra verser à cet homme, à Éric Brion, 15 000 euros de dommages et intérêts. 2 ans après la déferlante « Balance ton porc » sur les réseaux, quel sens donner à la condamnation de Sandra Müller?
Alors, il faut sans doute préciser qu'il va y avoir certainement un appel. On ne sait pas du coup dans quel sens ira la décision de la Cour d'appel. Mais ce qu'on peut dire là, première chose, quand on entend la réaction de Sandra Müller, moi, il y a quelque chose que je trouve extrêmement révélateur. Elle parle le gentil, la méchante, c'est-à-dire les bourreaux, les victimes, que je trouve un langage d'un simplisme absolu. Sachant que moi, je fais une différence entre ce que subissent énormément de femmes qui sont des agressions sexuelles, qui sont des harcèlements, voilà, et le fait d'avoir, dans une soirée un peu trop arrosée, entendu un type dire « tu as de gros seins », etc., etc. Je fais une légère différence. Or là, tout cela est mis sur le même plan, et on passe du singulier, donc je suis la méchante, à « nous sommes les sorcières ». Or, une décision de justice, elle traite une affaire, elle ne traite pas un phénomène. Et je pense que c'est cela qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'individualité des accusations.
Donc il n'y a rien de symbolique.
Je ne dis pas qu'il n'y a rien de symbolique, je dis que ça nous prouve qu'un cas particulier ne doit pas être érigé en symbole d'une cause. Or, ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est que ce premier tweet en a lancé d'autres qui finalement étaient sans doute beaucoup plus légitimes que le premier qui intervenait.
Gilles,
on a entendu la réaction de Sandra Müller, on n'a pas entendu les réactions au jugement. Or, je trouve qu'il y a eu une forme de jubilation mauvaise de tous ceux qui n'acceptent pas la remise en cause des comportements de certains hommes à l'occasion du mouvement MeToo et Balance ton porc contre Sandra Müller, de la même manière que on a eu ce type de réaction contre ceux qui n'acceptent pas la remise en cause de notre modèle de développement contre Greta Thunberg. Je trouve que on se concentre sur une personne pour ne pas parler du fond. Et donc je pense qu'il faut distinguer dans cette affaire le jugement du mouvement. Le jugement, c'est un jugement de première instance. On va voir ce qu'il sera en appel. C'était un jugement sur une question très spécifique de diffamation. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le jugement définitif, mon appréciation sur le mouvement est la même. C'est-à-dire qu'il pose des questions et même un certain malaise sur la forme. C'est-à-dire que je préfère les tribunaux au réseau, dans la dénonciation individuelle, et je ne partage pas l'idée que c'est un mal nécessaire, c'est un dommage collatéral. En revanche, je pense que ce mouvement a permis d'accomplir d'immenses progrès pour la cause des femmes, que ça a été une libération pour beaucoup de femmes, que ça a été une prise de conscience pour beaucoup d'hommes. Dans quelques jours, le 12 octobre, la Fondation Jean Jaurès sort avec le journal Le Monde une enquête dans 5 pays européens pour faire le point sur les violences sexistes, les harcèlements contre les femmes. Je ne donne pas les résultats, je vous en donne juste 2 chiffres. 60% des Européennes dans les 5 grands pays européens disent avoir vécu au travail était victime d'une forme de sexisme. Le sexisme n'est pas le harcèlement, mais 30%, mais il n'en est pas pour autant acceptable. Et 30% des Françaises disent avoir vécu au cours de leur carrière une forme de harcèlement ou d'agression sexuelle. Autant dire que quelque chose s'est passé avec le mouvement, mais que le combat, il reste devant nous.
Natacha.
Je suis entièrement d'accord avec le fait que ce mouvement était nécessaire et qu'il a permis une prise de conscience qui est salutaire. Bien entendu.
Mais justement, est-ce que cette condamnation, elle ne va pas dissuader les femmes de parler ?
Mais non. Ça ne dissuadera pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette prise de conscience a permis que des choses qui semblaient acceptables ne le soient plus. Tant mieux. La question que je me pose est presque vertigineuse. Est-ce que ce mouvement aurait pu partir d'une affaire qui soit justement un petit peu plus symbolique que celle-ci. Parce que là, en l'occurrence...
Il se trouve que c'était elle l'initiatrice, Sandra Müller.
Oui, il se trouve que c'était elle parce qu'elle a lancé un hashtag. Et que ce hashtag... Et puis parce qu'elle a dénoncé nommément. Et c'est là où ça pose problème. C'est qu'elle dénonce nommément quelqu'un qui a perdu son emploi, qui s'est trouvé mis en accusation sur cette place publique que sont les réseaux sociaux, mais ça a eu des conséquences dans sa vie réelle. Et donc quelque chose qui est extrêmement violent. Or, encore une fois, des violences, des agressions, des pressions sur les femmes, des propos dégradants, il y en a, et il y en a énormément. Là, en l'occurrence, est-ce que cette affaire-là était la meilleure pour porter cela ? Je ne sais pas. Simplement, je crois que moi, j'ai entendu trop souvent des gens, quand j'alertais là-dessus, au moment de Balance ton port,
et
je
disais que cette j'étais critique notamment
sur ce fait là sur celui-ci, et on me répondait ce n'est pas grave, c'était un dommage collatéral, et après tout il y a eu des excès dans l'autre sens, donc c'est pas grave. Or je crois que pour qu'un mouvement garde sa rigueur et sa vérité, justement, il ne doit pas s'autoriser d'excès. C'est pas parce qu'il y en a eu dans l'autre sens qu'il faut qu'il y en ait dans ce sens-là.
France Inter, le grand face à face. Le duel.